français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites, le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie, le groove perdu va commencer, je répète, le groove perdu va commencer,
possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme.
Un mouvement bobo.
Les bobos n'existent pas. C'est un terme qui apparaît d'abord au début des années 2000, en 2000, sous la plume d'un journaliste américain qui s'appelle David Brooks et qui écrit un ouvrage, un essai qui s'appelle Bobos in Paradise. Le livre a très bien marché, a été lu, mais le terme lui-même n'a pas vraiment pris. Et ce qui est intéressant, c'est que, en revanche, il a traversé l'Atlantique. Dès l'été 2000, on a des articles de presse qui relaient la sortie de ce livre, qui en parlent, et on va constater que le terme bobo, lui, il a beaucoup plus de succès en fait en France depuis une quinzaine d'années que ce qu'il en a eu aux États-Unis. À l'origine, bobo, donc, c'est la contraction de bourgeois bohème, et dans le contexte américain, au départ, ça désigne en fait des populations très précises, hein, assez bien identifiées, qui sont des classes supérieures. Dans le contexte français, c'est un petit peu différent parce que ça désigne progressivement tout et n'importe quoi. Et en particulier, ça a un sens beaucoup moins classe sup qu'aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde comment les médias ont utilisé le terme bobo, hein, ça désigne à la fois, certes, des gens qui travaillent dans les nouvelles technologies, qui ont des revenus très élevés, etc., mais ça désigne aussi un couple d'intermittents du spectacle qui s'installe à Montreuil, bon, et qui n'a pas du tout le même niveau de revenus, qui n'est pas du tout dans les classes supérieures. C'est un terme qui est trop simple, qui est trop flou, dont le contenu est impossible à définir, et les 20 dernières années l'ont montré. Le terme, il accompagne effectivement des visions du monde qui ont tendance à effacer ou gommer les différences et les clivages entre les catégories sociales et qui ont tendance à faire croire que des valeurs dominantes ou un mode de vie dominant seraient en train de se diffuser dans les espaces urbains occidentaux. Si on a un usage qui, au début des années 2000, est d'abord médiatique et surtout humoristique, sarcastique, léger, en fait, les choses se durcissent progressivement à partir des séquences électorales, notamment de 2007 puis 2012, puisque le terme, il est repris par les responsables politiques. Au départ, c'est surtout Nicolas Sarkozy qui utilise en fait l'expression bobo, qui la reprend, et à travers les bobos, en fait, il va construire finalement, par opposition, terme à terme, son programme présidentiel de 2007. Les bobos, pour lui, ce sont finalement ce qu'il veut enterrer, les 68ards et l'esprit de 68, comme il va le dire. Dans un deuxième temps, en 2012, on va voir plutôt à la fois la gauche et l'extrême droite reprendre le terme, cette fois-ci véritablement comme adversaire des catégories populaires, et donc comme population responsable, d'une certaine manière, de l'oubli des catégories populaires dans les projets politiques présentés en 2012. La tentation bobo, ça a été justement de construire ce bouc émissaire facile, je dirais, ou disponible pour convaincre ou capter cet électorat populaire. Dans le contexte où il faut récupérer les classes populaires, on va constater que les différents candidats désignent en fait les bobos comme adversaires du peuple, responsables de tous leurs maux, en particulier dans le domaine immobilier, dans le domaine du marché du travail, etc. Et donc les bobos, ça va devenir une catégorie fourre-tout, mais surtout repousse-tout, dans des discours dans des stratégies assez populistes.
Non, mais vous inquiétez pas, j'ai des petites pastilles à base d'écorce de citronnier bio, ça lubrifie la gorge, c'est génial.
Chez nous le vélo est rage, et si on te connaît pas, bah on trouve que t'es moche. Je suis si genre, croisé pas mon four, LGBT, transpalette, je suis même genouillé. Les petits pains, je les fais au levain, le levain est bio, donc le pain est vegan, sa mère. Pas de gluten dans mon assiette, de fibres de lin est faite mon assiette. Je cultive mes légumes sur mon balcon, que dégradation, j'en laisse pas une miette. Oh, j'ai fini ma canette, tous les jours je trie, poubelle jaune ouverte. Quand je te parle, je me contredis, je suis écolo, mais chez moi j'ai la clim. Son pote Marco, j'fais repérage de courge dans les chapiaux. J'ai vu du kino, ouais, j'raccourcis les mots et j'prends pas le métro. J'm'appelle Anto, j'mets des chemises à carreaux. Tu m'as vu à la télé, tellement vrai ça tu connais. Pas de mojito, seulement des mentalos. Tu m'as vu dans la forêt, j'parle aux arbres volés. Mon pull sur le dos, je roule à vélo, mes lunettes sont grosses comme mon ego. J'aime la campagne, j'aime la montagne, mais je reste à Paname pour les expos. Va pas sur une électronique, haut de coco biologique. Si je fais du tofu, j'insta direct. Topine en bourne avec courgette, des copeaux de bois dans ma cuvette. Ça me fait de l'anglais pour mes pâquerettes. Je jette pas l'argent par la fenêtre, j'économise pour une trottinette. Tous les jeudis, je vais checker les maraîchers. Je prends de la stevia pour la mettre dans mon café. Son pote Marco, j'fais repérage de courge dans les chapiaux. J'ai vu du kino, ouais, j'raccourcis les mots et j'prends pas le métro. J'm'appelle Anto, j'mets des chemises à carreaux. Tu m'as vu à la télé, tellement vrai ça tu connais. Pas de mojito, seulement des mentalos. Tu m'as vu dans la forêt, j'parle aux arbres volés. Ouais, je suis un bourgeois bohème. Maintenant tu reconnais ma chaîne. Allez, tu vas t'abonner. Allez, tu vas t'abonner. Je suis un bourgeois bohème.
L'autre jour, le ton est violemment monté à table. Pourtant, la soirée avait bien commencé, le repas était goûteux, les vins délicats, on refaisait le monde avec ardeur et humour, et tout à coup, ça a basculé. Et c'est de ma faute. J'ai dit à Nadine qu'elle était une vraie bobo. C'est comme si je l'avais insultée. Pourtant, il me semblait que ce jour-là, à table, nous étions tous des bobos. Autrement dit, des personnes qui vivent plutôt dans les grands centres urbains, qui ont fait des études, qui exercent un métier qu'elles ont choisi, qui jouissent d'une situation confortable, qui achètent bio, qui sont préoccupées par l'environnement, qui roulent souvent à bicyclette, des personnes qui ont le cœur plutôt à gauche, etc., etc. Vous me direz, c'est une classe sociale qui existe dans toutes nos sociétés occidentales et vous en connaissez autant en Allemagne qu'en France des gens comme ça. On pourrait même dire des quartiers de gens comme ça. Les arrondissements de l'Est parisien ou Prenzlauer Berg, même combat. Sauf qu'en France, on a un mot bien spécifique pour les désigner, on les appelle les bobos. Bobo, c'est la contraction de bourgeois et bohème. L'expression est ancienne. À la fin du 19e siècle, Guy de Maupassant parle par exemple dans « Belle Amie » d'une petite bourgeoise bohème. À la même époque, aux États-Unis, ce sont les travailleurs itinérants qu'on appelle les « hobos », un terme remis au goût du jour par Jacques Kerouac en 1957 dans son mythique « On the Road » sur la route. De « hobo » à « bobo », il n'y avait qu'un pas. Et en 2000, le terme est utilisé pour la première fois par un journaliste américain, David Brooks. Titre de son livre, Bobos in Paradise. Il voulait ainsi décrire une nouvelle catégorie sociale, celle des jeunes hommes et femmes d'affaires prospères de Greenwich Village, qui concilient leurs valeurs capitalistes avec des conceptions idéalistes, libertaires. Ils sont donc à la fois bourgeois par leur statut social et bohèmes par leur mode de vie. Le mot a traversé l'Atlantique et a fait mouche en France. Peut-être parce que le terrain était bien préparé. Depuis la fin des années 70, le magazine de centre-gauche Le Nouvel Observateur publiait chaque semaine une planche de BD de Claire Bretéchet qui caricaturait avec humour et une bonne dose d'autodérision son entourage et elle-même. Ça s'appelait « Les frustrés ». c'est qu'à l'époque, les intellectuels de gauche vivaient peut-être encore un peu douloureusement la perte des grands idéaux de 1968. Les bobos, eux, ne sont pas dans la frustration. L'époque est révolue. Ils ont fait la paix avec leurs contradictions et s'enorgueillissent même. Mais tout le monde n'est pas bobo, ou plutôt, tout le monde ne veut pas être bobo. Je crois que c'est pour ça que Nadine s'est emportée l'autre jour. Parce que Nadine, elle, elle roule certes en bicyclette, achète bio, etc. Mais c'est une vraie militante de gauche. Elle est fille de militants communistes, elle n'a pas abandonné le combat. Et je crois que c'est la partie bourgeois de bourgeois bohème à laquelle elle ne veut pas être assimilée.
Oui, elle ne veut pas être assimilée à ceux qui ont un fort pouvoir économique et participent à un phénomène de gentrification beaucoup plus agressif qu'il n'y paraît.
Qui, avec le sourire, certes, envahissent les anciens bâtiments industriels et les transforment en lofts, qui organisent de jolies fêtes de voisinage, mais repoussent toujours plus loin les classes populaires. Bref, une gauche qui a renoncé à ses idéaux au profit d'un égoïsme bien calculé. Car elle sait que bon nombre de bobos, s'ils ont le cœur à gauche, comme on dit, votent de plus en plus souvent au centre, voire à droite. Ben oui, c'est que certains ont pas mal de choses à préserver.
Eh bien voilà pourquoi un certain nombre de sociologues critiquent fortement cette appellation « bobo ». Car c'est gentil, bobo, et ses dérivés, boboisation, boboland, c'est sympathique, ça sonne convivial. En fait, disent-ils, le bobo n'existe pas, il est juste un bourgeois moderne. Alors c'est promis Nadine, je ne dirai plus jamais que tu es une bobo.
Je m'habille chic, l'orgueil peut faire preuve d'élégance. Costume, trois pièces et chambre de bonne s'unissent à ma déliquescence. Mon pote Chopin séché rejoue mes larmes, on réinvente l'eau salée. En toute humilité, je trinque au courage, 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 courage.
Oh, passe à un tout autre sujet, les bobos. Si vous ne les connaissez pas, ce sont les fameux bourgeois bohèmes, une population au contour encore flou, nouvelle bourgeoisie pour certains, réformiste selon d'autres, des individus au capital culturel élevé en général et co-responsables, mais pas toujours, aux valeurs plutôt à gauche politiquement et à qui on reproche aussi un certain égoïsme, un certain conformisme, mais également le concept qui s'est répandu en Occident et notamment en France depuis près de 15 ans. On en parle tout de suite avec vous, Laure Vatrin et Thomas Legrand. Vous êtes journaliste, vous êtes en couple, hein, et c'est important de le noter, et vous publiez aux éditions Stock ce livre drôle, pertinent aussi, La République Bobo. Alors, je vais vous poser une première question qui n'est pas la plus simple, hein, elle est consacrée d'ailleurs à votre premier chapitre. C'est quoi un bobo ?
C'est quoi un bobo ? Alors, nous, plutôt que de donner une définition stricto sensu du bobo, on a voulu finalement donner les ingrédients de la boboïtude, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un mot qui était beaucoup utilisé dans les médias, dans les conversations qu'on pouvait avoir au quotidien, entre amis, en famille. Très souvent, c'est un mot fourre-tout qui désigne un bouc émissaire et qui a du sens, mais qui n'avait pas de définition. Donc, on s'est dit, finalement, au bout du compte, après avoir rencontré des sociologues, des géographes, des hommes politiques, des femmes politiques, on s'est rendu compte que c'était un groupe social, finalement, les bobos, très hétérogènes. Effectivement, vous l'avez dit, qu'il y a un capital culturel élevé. C'est même le truc le plus important pour ce groupe social. Et c'est ce capital culturel qui a beaucoup plus d'importance, finalement, dans ses choix de vie, dans les lieux où ils vont avoir envie d'habiter, les valeurs qu'ils vont considérer comme étant positives, que le capital économique.
Leur capital... l'argent n'est pas...
Non, alors ouais, très souvent...
on parle de bourgeois bohème, donc bourgeois dedans.
Ouais, mais c'est pas une classe sociale. Et il y a des bobos qui ont des
valeurs
sociales,
communes, en tout cas.
Des valeurs communes, ouais. Effectivement. Alors, des valeurs communes qu'on peut détailler, hein, qui sont sur les questions de société assez progressistes, effectivement, qui contribuent à promouvoir l'idéal de mixité, même si dans les faits, c'est social,
oui,
ethnique.
Hein.
Même si dans les faits, c'est pas toujours aussi évident. Hein, mais on n'a pas dit qu'ils faisaient tout avec
tout
le monde.
Bien,
mais
bon, ouais.
Voilà.
Alors, le concept vient des États-Unis, tout début des années 2000, en 2000, je crois. Et en France, c'est un terme donc très utilisé, vous l'avez dit, hein, souvent dans un but péjoratif. Vous parlez même de bobo-bashing. Pour quelle raison ?
Ça a été utilisé beaucoup, notamment pendant les campagnes présidentielles de 2007 et 2012. Et c'était pour, en fait, s'attaquer à toutes ces valeurs positives, mais indirectement, plutôt que... de s'attaquer à l'antiracisme plutôt que de s'attaquer à l'antisexisme, on s'attaquait aux bobos et c'était des boucs émissaires très pratiques parce qu'il n'y a pas de ligne nationale de défense de bobos.
Vous le dites,
et,
en
voilà.
En
et donc, donc c'est un bouc émissaire facile pour la droite et puis pour une partie de la gauche aussi,
oui,
pour
parce
tous
que
ceux qui sont absolument conservateurs.
Bobo, hein,
personne
vous le dites
ne
également.
S'assume. Personne ne s'assume vraiment bobo. Ça commence un petit peu.
Oui, à la fin du livre, vous parlez de coming out.
Voilà. Et ce livre va peut-être aider, parce qu'il a un certain écho, va peut-être aider à cette opération de coming out général. Mais
c'est peut-être ça le livre de défense des bobos. Hein. C'est peut-être,
oui, peut-être
celui-ci.
Peut-être. Mais on voudrait pas créer une nouvelle non plus catégorie. C'est pas une classe sociale et c'est pas une catégorie en soi. C'est plutôt
sociologiquement, c'est difficile à définir, en tout cas.
Oui,
c'est
bien
vrai.
Sûr. Et les sociologues n'aiment pas le définir. Les sociologues ont souvent une vision assez marxiste de la société.
Le lutte des classes,
c'est quand même la vision qui a été la plus pertinente pour observer la société. Et on reste là-dessus. Or, il y a des bobos, par exemple, on parle de travailleurs sociaux qui ont une maîtrise ou une licence de sociologie ou de droit. Ils sont travailleurs sociaux, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Et dans le même temps, un webmaster très bien payé, très pointu, peut gagner 10 000 euros. Ces deux personnes-là...
Ils vont quand même avoir des affinités, c'est ce que vous voulez dire.
Auront des affinités, se sentiront faire partie du même groupe social et ils n'ont pas les mêmes intérêts de classe pourtant.
Être bobo, c'est aussi une des contradictions, hein, c'est vouloir changer le système, mais sans vouloir trop bouleverser son confort parfois. Vous parliez de mixité sociale, de ces bobos justement qui vont s'installer, notamment en banlieue parisienne, qui vont rénover des quartiers, mais qui vont vivre un peu entre eux. Pas mettre forcément les enfants à l'école publique non plus.
En fait, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a la caricature, il joue quand même le jeu. Nous, on s'est rendu compte en faisant ce bouquin et en voyant aussi des gens vivre autour de nous qu'ils contribuent à faire vivre l'école publique aussi. Ils sont hyper actifs, par exemple.
Mais en même temps, ils font monter également le prix de l'immobilier.
Oui.
Ça chasse aussi certaines classes sociales.
C'est ce qu'on appelle la gentrification. Mais la gentrification...
Concept britannique au départ.
Voilà, c'est un concept inventé, encore une fois, par le sociologue, marxiste d'ailleurs. Mais la gentrification a des limites, parce qu'il y a beaucoup de villes et de quartiers qui ont des logements sociaux, et ça c'est un taux incompressible. Et du coup, un quartier ne peut pas être gentrifié complètement. Et puis, il y a aussi beaucoup de bobos qui n'ont pas d'argent. Les intermittents qui sont au chômage, des tas de métiers liés à la nouvelle économie qui est en crise aujourd'hui font que le bobo n'est plus un agent de l'immobilier qui se renchérirait forcément.
Une dernière question très rapide. C'est un concept qui est occidental, mais pas seulement. Vous parlez de Turquie, Jordanie et d'Afrique du Sud. C'est un concept qui s'exporte. En tout cas, une manière de penser qui s'exporte.
Oui, c'est très lié aux classes moyennes qui, par ailleurs, sont en augmentation partout dans le monde.
Et qui voyagent
et qui ont accès à l'information et qui sont connectés sur le monde et qui ont en même temps, comme les bobos en France, on va dire, regardent aussi ce qui se passe dans leur environnement proche, dans leur quartier, dans leur ville. Et finalement, effectivement, on se rend compte qu'il y a une espèce d'international bobo, si vous nous passez l'expression.
C'est
des citadins. Voilà, et ils sont à l'aise avec la mondialisation.
Merci Laure Vatrin et Thomas Legrand. Vous avez donc publié ce livre, La République Bobo, aux éditions Stock. Et pour ceux qui veulent savoir s'ils sont bobos ou pas, eh bien, il y a un petit test à la fin du livre. Je vous le recommande. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Si j'ai l'air si futé du type qui fume des pâtes, c'est que j'ai le permis B et je fais de la trottinette. Car si j'aime le chichon, je défends l'oxygène. Faut que tu vois mon balcon, j'ai mis une éolienne. Ouais, on est à Paris, à la pointe de tout. On est des petits génies, la gueule en biais c'est nous. Je connais un bistrot, super sympa t'inquiète. Le café 5 euros, si ça avec une sucrète. Allô maman bobo, maman, je suis bobo. J'ai un 16 mètres carrés, pas cher, tu vas pas me croire. C'était ça où j'achetais un château de la Loire. J'aime trop mon quartier parce qu'il est vivant. À minuit, un djembé nous endort doucement. J'suis booké, j't'ai pas dit. J'ai une sortie roller, j'ai mon cours de tai chi, un before, un after. Est-ce que j't'ai raconté mon trekking au Népal? Moi qu'on entend râler quand l'ascenseur est en panne. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Je suis tout décoiffé, comme tombé de mon lit. C'est hyper étudié, testé en soufflerie. Je suis tout mal fringué et je me trouve super beau. Je vous dis mon secret, j'ai braqué un clodo. Je fais toutes les expos, surtout quand elles sont laides. Je fais mon intello en admirant des merdes. Je mange des produits bio, j'ai acheté une courgette. C'est très bon pour le dos, mais il faut bien la mettre. Allô maman bobo, maman je suis bobo. Quand je porte des lunettes, je les choisis carrées, grandes comme des fenêtres. Je suis une baie vitrée, je travaille en freelance dans les vénementiels. C'est du boulot tu penses, préparer des cocktails. Bien sûr je suis de gauche, bien sûr je pousse un cri contre tous les trucs moches comme le prix des sushis. Tiens, prends donc une verrine aux algues au lichen, une petite tartine. Ah non, y a du gluten. Allô maman bobo, maman je suis bobo. Quand on fait des bébés, on leur donne des prénoms pour les punir d'emblée. Gaspard, Jules ou Léon, on leur explique tout comme s'ils étaient grands. La tigraine pas du tout. J'ai niqué ta maman, je pourrais faire mille couplets, mais je vais être à la bourre. Je dois me faire poser une barbe de 3 jours. Puis mon coach personnel m'a quelque peu déçu. Son bilan est formel, je suis un trou du cul. Allô maman bobo, maman je suis bobo. Allô maman bobo, maman je suis bobo. Je suis bobo.
Bref, avec l'arrivée du beau temps, là, j'ai organisé un petit pique-nique sur Facebook. Rendez-vous 13h au but de Chaumont. Bon, 15h, toujours personne. J'ouvre les chips. Bon, les buts de Chaumont, c'est génial quand il fait beau, là. Ce petit coin d'eau, ce soleil, cette verdure, ça pourrait être un petit coin de paradis s'il n'y avait pas tous ces connards autour. Hein. Un boucan horrible, on s'entend pas péter, là. Avec tous ces tocards qui viennent te casser les oreilles à jouer de la gratte, là. Tiens, si je jouais No Woman No Cry dans un parc, je suis sûr que personne l'a jamais fait avant, hein. Bah si, toi et tes autres copains Rasta Blanc, là, partout à travers le monde. Putain. Bon, ah, je me laisse pas abattre, j'attaque ma deuxième bouteille de picon pur, hop, je me mets à l'aise en slope dans l'herbe. Ouais. J'aime bien être en slope parce que quand on est comme moi avec les cuisses qui se touchent, arrivé 16h avec la chaleur, ma poche à chouquette, on dirait de la pâte à pain. Oh là, ça colle sur le côté. Oh là. Et ce qui est agréable, c'est qu'avec le vent, t'as l'impression que Mère Nature, elle vient de souffler sur les roustons. Oh là, un petit mouvement de guibole et ça te décolle la couille de la jambe. Un petit bruit d'autocollant. Oh, l'osmose parfaite. Bon. Oh, par contre, c'est mal famé, hein, comme lieu. Hein. Oh, c'est plein de bobos, là, cette sale race. Il y en avait trois à côté de moi. Elles m'ont gâché mon moment avec leur discussion, là. Depuis qu'ils ont l'âge de marcher, j'accompagne Palmyre, la plus grande, et Baladur, mon petit dernier, au cours de djembé. Oh, de toute façon, la musique africaine, c'est leur truc. Hein. Ils ont adoré le dernier album de M, L'Anomalie. Mon petit dernier, comme ça, il m'attrape par la main et il me dit « Maman, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un voyage transcendantal auditif du domaine du jamais vu ?»« Vous saviez, vous, les bobos, c'est la seule race où dès l'enfance, t'es déjà un connard ? Putain !» Oh là là, il y en a une qui s'approche de moi, je me dis oh là là, encore le showbiz qui me rattrape là. Elle a dû me reconnaître de Nova. Bonjour monsieur. Ouais, salut poulette. Isaac, c'est bien moi, Benjamin Tranier. Par contre là, je suis en off, hein. On se fera un selfie quand je mettrai mon tanga pour faire bronzer de l'autre côté. Là, t'es en train de faire de l'ombre sur ma burne. Allez. Vous auriez pas un tire-bouchon? Ah ouais, si, toujours accroché à mon porte-clés. Mais comme là, j'ai pas de poche, je l'ai rangé dans mon sif. Faudra revenir plus tard. Votre quoi? Mon sif, mon sillon interfessier. Tu connais pas le sif? Tu t'es jamais fait arracher le paillasson à caca ou quoi? Bon allez, je vous laisse parce qu'au moment où la sécu du parc m'a viré en me tenant chacun par une jambe, j'ai fait tomber mes clés. Il faut vite que j'aille les rechercher. Allez, à la semaine prochaine les beaufs. Et n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un.
Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Ce monde nous fait peur. Je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Y'a un filter. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien. On a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Les brunchs sans quinoa. Dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Les brunchs sans quinoa. Quinoa. On a des problèmes. Plus de freins sur mon fixie, Airbnb sans wifi. On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même. Nous vous pointons du doigt, à qui de droit? À qui de droit?
Un peu de gaieté à présent avec les magasins bio, un véritable phénomène qui a gagné la capitale depuis quelques années. Pourquoi un tel succès? Qui en sont les principaux acteurs? Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark.
Betteraves, topinambours et cucurbitacées, bienvenue chez Lucas et Corentin, deux amoureux de la nature qui viennent d'ouvrir leur magasin bio.
Corentin, ouais. Est-ce qu'il nous resterait des gazpachos andalous?
Gazpachos andalous, oui, c'est à côté des potages fenouil et déshydratés.
D'accord.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des pommes?
Des quoi?
Des pommes
Des pommelots.
Alors comment expliquez-vous cet engouement pour le bio?
Ouais, non, c'est...
S'il vous plaît.
Tout petit peu moins fort. Ici, on ne veut pas agresser le produit, on évite tout type de pollution, notamment la pollution sonore.
Alors, comment expliquez-vous ?
Non, mais ça va, on a compris. Disons que nos légumes sont le fruit d'une agriculture 100% biologique. Hein. C'est-à-dire qu'on privilégie toujours les fruits qui sont encore dans les arbres, alors qu'on oublie trop souvent les fruits tombés il y a 2 semaines. Ils sont bien, bien mûrs, quoi.
Voilà, ils sont bons. Ils sont bio pour la santé.
Bio pour la santé.
Pardon.
Bio cool. Pour la santé.
Alors, quel est le secret de votre réussite ?
Ah ben, disons qu'il faut être proche de la clientèle. Je pense qu'il faut bien leur exposer les vertus des aliments, comme la courgette. Courgette, ça s'écoute. Courgette, il faut apprivoiser son...
Oui. Je crois que j'ai un petit peu trop écouté la courgette. Là.
Oh non. Non, non, ça c'est tes porcs qui se renouvellent.
D'accord.
Ah, c'est bio pour la santé.
Ok. Non, parce que je me sens pas très bien, là.
Repose-toi à côté du basmati.
Allô ?
Être en communion avec les aliments, une des recettes de l'essor des deux amis. Victimes de leur succès, ils ont même dû engager du personnel.
Ah bah moi, vraiment, je suis très content. Ici, il y a une super ambiance, les gens sont sympas. Le midi, on mange ensemble. On mange des produits frais, comme des veloutés de pousses d'épinards.
Vous le savez, moi, en tant qu'aficionados, Cléandre, il est où,
Eurydice, va me chercher ton frère et tu me prends du lait de soja, d'accord ? Merci.
Oui, donc, c'est très important, vous savez, de manger bio aujourd'hui. Il est temps d'avoir une réelle prise de conscience, vous savez. Il faut que les gens fassent un geste pour la planète.
Mais alors, concernant les...
Attends, c'est encore longtemps l'interview, là ?
Bon, ici, on est totalement éco-responsable, hein, 100% naturel.
Surtout pas de sac plastique.
Oh, et les légumineuses ! Merde !
Corentin, pollution sonore.
Ah oui, les pommes l'eau, zut. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français...
Enfin, surtout les provinciaux.
Ouais, les provinciaux s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié.
Bien sûr, regardez, hygiène bucco-dentaire, savon végétal... Tiens, bah, regardez ce déodorant. Ah voilà, sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 euros.
On reste encore un peu chez
moi. Ouais, puis c'est à billes en plus. Puis c'est pas pratique.
Ah oh oui, pour une cachette de mandarine, on prend le chèque. Hein.
Ouais.
Oh, oui. Ou les hypothèques de maison.
Oui, oui. Mmh.
Aujourd'hui, Corentin et Lucas ont ouvert 3 magasins et ils ne comptent pas s'arrêter là.
On a monté 3 magasins bio, ouais, c'est trop énorme.
C'est bio pour la santé,
comme ce Mac bio.
On va monter une bibliothèque,
un bioling,
une boîte de nuit, le Macou bio.
Bio. Énorme.
Mes parents sont bio, ne mangent que du bio, ne boivent que du bio, ne jurent que par bio. Chez nous, tout est bio, le sel, il est bio, la poêle, elle est bio, y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman, et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi, je rêve d'un hamburger. Mes parents sont bio, n'achètent que du bio, ne parlent que de bio, ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, quand ils se voient bio, c'est à celui qui bio, sera le plus bio. Mon père c'est
bioman,
marié à bioman, ensemble ils sont bio. On mange des blettes ou bien des bêtes.
C'est la même chose.
Soit disant que c'est plein de vitamines. Moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. Mais à la maison bio. Même les rats sont bio. Même les klaxon. Bio, 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 tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio.
Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi, qu'on fait ça par conviction?
Ça nous empêche pas de continuer à faire pousser des pommes pleines de pesticides juste à côté. Pas vrai, les gars?
Ils sont super. Alors l'hiver, on fait pousser des tomates sous des serres surchauffées. On importe des fruits qu'on fait trois fois le tour de la Terre dans des jumbo jets qui crament des tonnes de kérosène. C'est beau quand même. Et on exploite des petits producteurs qu'on paye au lance-pierre. Oh. Merci René. Alors certes...
Je m'appelle pas René.
Alors certes, on fait du bio. Mais notre spécialité, ça reste de faire de l'argent.
Je ne veux plus jamais m'habiller. Plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants. Mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi! Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane.
Ruraux, ces citoyens qui décident de quitter la ville pour monter des gîtes ou bien des chambres d'hôtes sont de plus en plus nombreux. Quelles sont leurs motivations? Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark.
Mathias et Pablo, deux amis parisiens, ont décidé de monter leur gîte, mais avec un petit plus.
Qu'est-ce que tu préfères? Que je mette des serviettes en lin, bambou, bambou, lin?
Oh, tu mets bambou, c'est plus nature.
Bambou, ouais. En plus avec celle-là, on tient le bambou.
Bienvenue chez Vegan de Toi, où tout est 100% vegan, 100% bio et 100% déconnecté.
Oh là là, merde. Oh non, oh non, oh non, regarde, les anciens proprios ont oublié d'enlever le code Wi-Fi.
Oh.
Oh non, ça c'est insupportable.
Ils ont aussi oublié d'enlever ça.
Elle était encore branchée. Voilà pour ça.
Ouais. Pourquoi le nom vegan de soi? Vous êtes aussi devenu vegan.
À force d'être en contact avec nos petits animaux, on s'est rendu compte qu'il fallait faire le pas.
Oui.
Pour leur protection.
Ce sont
des êtres humains, après tout.
Oui, et aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse clientèle. Enfin, non, ribambelle de gens qui se rallient à cette cause.
Du coup, vegan de toi,
ouais.
Mais toi, T.O.I.T.
Ouais.
Mathias et Pablo ont été jusqu'à rendre leur concept le plus nature possible.
Deuxième chose.
Ah, celle-là, moi,
Moi, je l'aime particulièrement.
Tout le gîte est 100% vegan.
Ah, 100% vegan. vegan de toi. Ouais.
Et là, le tapis, c'est de la peau de quoi?
C'est ça, du...
Ouais, c'est une peau. Une peau de légumes. Avec des fibres de soja.
Ouais, c'est...
Et c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus... Voilà.
Mathias et Pablo proposeront des légumes bio issus de leur propre potager.
Non, je crois que c'est important pour nous de revenir à la terre. Parce que nos hôtes le ressentiront et à leur tour, ils reviendront eux-mêmes à la terre.
C'est sûr que les clients, enfin les gens, seront heureux de consommer maison, même si ça ne nous empêche pas d'acheter chez les producteurs locaux.
Et que pensent les locaux de ces nouveaux arrivants?
Oh là là, tous ces produits locaux.
On est content qu'ils soient là.
Bonjour.
C'est combien le melon, monsieur?
20 euros. 20 euros pièce.
Oh, c'est tout. C'est vraiment, vraiment se fait avoir à Paris.
Ouais, non, c'est vraiment à voir. Hein. Bah, on prend une cagette.
Allez, on se fait un bon paquet de pognon.
Ça nous a coûté que 500 balles, c'est tout.
Ouais, c'est super.
Vegan de toi, hein. Vegan,
ouais, vegan. Et voilà, déjà 4 jours qu'on est vegan.
4 jours.
4 jours.
J'aurais dit un peu plus, moi.
Hein,
ça fait, ouais, on commence à, ouais, à le sentir un peu. C'est, mais en même temps, hey,
on est plus malade.
Moi, je me sens
plus malade.
Plus de viande. Plus de poisson.
Plus de poisson.
Plus de fromage.
Plus de fromage.
Donc, plus de raclette. Ah putain, une bonne raclette. Ouais.
Simple phénomène de mode ou prise de conscience? En tout cas, Mathias et Pablo attendent leur premier visiteur avec
C'est étrange.
Patience.
Je ne sais pas ce qui t'arrive ce soir. Tu ne reprends pas d'escalope de soja?
Encore du bio, toujours du bio, rien que du bio.
Mais je les ai achetés chez Naturalia.
Art du bio.
En dessert, j'ai préparé un flan avec du lait de riz.
Du bio liquide, du bio sous vide, c'est bien trop bio.
Saupoudré de graines de sarrasin concassées.
Trop bio.
Allons le déguster tous les deux, là-bas, sur le compost, main dans la main.
Mais c'est fini, les privations. Moi, je veux du gras aussi, des Big Mac à foison.
Je voudrais te déclarer ma flamme dans les toilettes sèches. Mais j'ai peur de tout brûler.
Les muesli, les crêpes au quinoa.
Préfères-tu une laitue, une frisée?
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre.
Pissenlit.
Qui aime le bjorg, les biscuits à l'épeautre.
Batavia.
Moi, les galettes marinées de soja.
Rock.
Me donnent la nausée.
Non.
Vraiment, je n'aime pas ça.
Ou bien une scarole encore, tous les deux.
Scarole, scarole, scarole.
Rien qu'une feuille.
Scarole.
Une nouvelle classe après les bourges et les prolos, pas loin des beaufs, quoique plus classe, je vais vous en dresser le tableau. On peut définir le bobo comme une petite plaie sans gravité. Mais c'est pas le sujet, parce que au contraire, dans ouvrez les guillemets, on traite les choses avec beaucoup de gravité. Le bourgeois bohème, puisque c'est ce que bobo veut dire, à la base c'est quelqu'un vivant en ville, étant sensible aux idées progressistes et appartenant aux classes moyennes supérieures.
En fait, le terme bobo nous vient des États-Unis. Il est né au début des années 2000 sous la plume du journaliste David Brooks. En France, le mot a très vite été repris pour être utilisé de manière péjorative.
Tout à fait, Cotentin, le bobo c'est une figure repoussoir utilisée pour disqualifier. On n'entendra pas souvent quelqu'un dire « oui, moi je suis un bobo ». Non, le bobo c'est toujours l'autre, le bobo il est arrogant, il est naïf, il est élitiste, et surtout, il est déconnecté des réalités des classes populaires. Alors moi-même j'avais des images en tête avant, je voyais vraiment un bourgeois, donc quelqu'un qui gagne bien sa vie, avec un Mac, beaucoup de pratiques culturelles, et qui faisait du vélo.
À peine réveillé, direction le parc des buts de Chaumont. Pas de jogging ce matin, mais des tentes sur un bout de pelouse. Le bobo de merde, comme il se surnomme lui-même, raconte dans son livre comment il s'est découvert bourgeois bohème.
Au début, je disais non, je suis pas un bobo, parce que bobo, c'est un peu péjoratif, donc j'aimais pas trop. Et puis en fait, en réalisant que je venais bronzer le dimanche ici au parc des Buttes Chaumont, que j'habitais près du canal Saint-Martin, que j'allais bruncher le dimanche, que j'avais des fringues comme tous les autres bobos, je me suis aperçu que peut-être j'étais bobo.
Et puis au fil des ans, les bobos c'était devenu un peu tout le monde. Il suffisait d'être prof, étudiant, artiste, même si l'on vivait avec un salaire équivalent ou même inférieur à celui des classes moyennes, eh ben on était bobo. En somme, le côté bourgeois avait un peu disparu. Ou alors il n'était plus relié à la question économique, il était relié à la question de la culture et du mode de vie. Des travailleurs pauvres, s'ils vivent en ville et bossent dans la culture par exemple, peuvent aujourd'hui se faire traiter de bourgeois. C'est assez nouveau.
Voir ces deux-là faire une émission sur les bobos comme si ça les concernait pas, ça me fait doucement marrer. Vous voyez les DVD ici ? On est dans un vidéoclub. Un vidéoclub en 2018. C'est pas un truc de bobo, ça ?
Tout d'abord, interrogeons-nous. Est-ce que ce rejet des bobos par ceux qui ne se sentent pas bobos ne peut pas s'expliquer, se comprendre ? S'expliquer notamment par le fait que les bourgeois progressistes avaient de toute façon tourné le dos aux classes populaires, et ce, depuis longtemps, entraînant avec eux la cohorte de profs, d'intellectuels, de journalistes qui leur étaient idéologiquement subordonnés. En 2011, le think tank Terra Nova, proche du PS, a sorti un rapport dans lequel il était préconisé d'abandonner à leur sort les ouvriers, incapables de comprendre leur intérêt, pour se tourner vers d'autres groupes, des groupes qui seraient plus à même de comprendre pourquoi il faut écouter les gens qui savent. Pour Terra Nova, les classes ne sont plus unies par des considérations socio-économiques, mais par un intérêt idéologique, la défense du progressisme et de l'ouverture. Ce rapport, c'était l'aboutissement d'un long processus de désengagement de la gauche social-démocrate envers les classes populaires, une gauche pour laquelle votaient massivement les bobos. Et c'est précisément cette collusion entre des intérêts idéologiques plus qu'économiques qui unit les bobos.
Ça va, vous en sortez, là ?
Ouais, changez l'eau en culasse, puis je vérifie le niveau d'huile.
Je tiens à dire que malgré leur ethos de classe intellectuelle, ils sont super cons. Ce détachement vis-à-vis des classes populaires coïncide à la fois avec l'abandon de la lutte des classes par une part de la gauche française, et également avec la mise en avant d'une certaine distinction dont se prévalent les bobos, mais qui a toujours été celle des professions artistiques et intellectuelles. À gauche, jadis, il était question d'élever toute la classe ouvrière, de lui offrir toujours plus de culture, d'éducation. C'était le programme de la gauche, notamment pour combler l'écart qui pouvait séparer les prolétaires les plus exploités des intellectuels qui disaient partager leurs préoccupations. Mais la gauche institutionnelle et ses représentants les mieux installés ont fini par s'accommoder d'un certain élitisme. Puis ils ont fini par se persuader que les classes populaires étaient des ploucs, des fachos, des crétins. Du coup, de leur côté, entre eux, ils ont poursuivi leur petite course à l'élitisme culturel tout en acceptant, justement, que c'était de l'élitisme. À présent, si le prolo rejette les marques de distinction du bobo, le bobo ne se dit plus peut-être que je suis trop snob, peut-être que je m'y prends mal, non, il se dit juste, de toute façon, les prolos ne comprennent rien à rien.
La distinction, au sens que lui a donné Pierre Bourdieu, c'est montrer que l'on est différent. Différent dans sa façon d'être, dans sa façon de se tenir, dans les restaurants qu'on fréquente, les films que l'on regarde, la musique que l'on écoute, ou même dans la façon qu'on a d'agencer son intérieur. Ou son décor.
Donc pour les bobos, le but de toutes ces stratégies de distinction, c'est évidemment de se différencier. Tout d'abord se différencier individuellement, ils aiment être perçus comme des êtres singuliers qui se singularisent par leurs choix et leurs goûts. Ensuite, collectivement, comme tous les groupes sociaux, ils pratiquent l'endogamie, c'est-à-dire ils ont des codes, des rites, un langage, qui font qu'ils vont chercher la compagnie de leurs semblables plutôt que celle des gens qui sont trop éloignés d'eux culturellement. Tous les groupes sociaux sont comme ça, tous. Sauf que chez les bobos, la culture ayant une place centrale dans leur mode de vie, c'est ce critère-là qui va primer sur d'autres. Hein, dans d'autres groupes, ça peut être l'argent, la religion ou la couleur de peau. Bon, ben, eux, c'est la culture, et ça, c'est perçu comme un snobisme intolérable. Et ce snobisme, la droite conservatrice va s'en servir au mieux. Elle va dire « Regardez-moi, ces bobos éduqués, là, qui vous prennent de haut, ils vous disent que vous êtes des beaufs. »
Ce sont des bobos, c'est d'un conformisme, c'est le prêt-à-penser, c'est affreux, ils sont méprisants à l'égard de millions d'électeurs, je ne les supporte plus, voilà.
Tout doucement, faut pas parler si fort, doucement, doucement, les bébés qui s'endort. Attention, attention, si toi pas donner biberon, tapez-toi très fort, attention, attention à ce petit poupon, ce tout petit poupon. À moi. Pousse, pousse, gaffe aux secousses, la lui sucer son pouce. Pousse la soucousse, je crois que c'est pas son truc. C'est pas difficile, c'est pas difficile. Les canaux et les billes, c'est pas difficile. Je vois que c'est pas ton style, même pas les Playmobil. Et toi, ça se sent. Ça se sent, pas que t'aimes le poupon. Ça se sent, que t'en as pas des bonbons. Ça se sent, que t'as pas la façon. Ça se sent, pas que t'aimes le poupon. Ça se sent, ouh, mais fais attention parce que je vais pas lui mettre un masque. Je vais pas lui mettre un casque. Ah, ça non, pas moi. responsable. C'est quoi ça, ces façons? Mais ça va pas, non. Tension un temps soit peu, pas faire bobo cheveux. Le pipi, ça s'essuie, même topo pour le popo. Faut pas faire des yeux gros. Gardis donc un bidon, quand c'est petit c'est mignon. Surtout mon petit poupon. Et toi, ça se sent que t'as pas la façon. Ça se sent pas que t'aimes le poupon. Ça se sent que t'en as pas des bonbons. Ça se sent que t'as pas la façon. Ça se sent pas que t'aimes le poupon. Ça se sent. Attention parce que ça se sent que t'as pas la façon. Ça se sent pas que t'aimes le poupon. Ça se sent. Ouh, mais fais attention parce que je vais pas lui mettre un masque. Je vais pas lui mettre un casque.
Avec ses belles idées, accueillir tous les immigrés, alors que, évidemment, en face, les classes populaires sont naturellement xénophobes.
Pour la destruction de notre puissance agricole, qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts.
Le bobo, c'est celui qui veut faire du vélo, parce qu'il est en ville, alors que les classes populaires rurales, eh ben, elles ont besoin de leur bagnole.
Cette élite-là, elle a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime, avec son panier en osier, aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière.
Le bobo pour l'extrême droite, en fait, c'est l'antithèse du vrai français, le français du réel. Le bobo, lui, il est dans le monde des idées, il est dans le factice, il est dans l'apparence, la superficialité même. Depuis quelques années, la figure du bobo est surtout donc un repoussoir pour la bourgeoisie réactionnaire, un repoussoir qui permet de créer du commun avec les classes populaires autour des valeurs les plus traditionnelles. Et c'est peut-être ça le plus dangereux, le recentrage du débat sur les questions identitaires. L'extrême droite veut croire et faire croire que les classes populaires sont naturellement enclines à accepter les idées xénophobes, conservatrices et nationalistes, précisément parce que c'est ce langage qu'elles pensent avoir en commun avec elles. Ces arguments s'accompagnent bien souvent d'un anti-intellectualisme fort, de la mise en scène d'un conflit entre l'intelligentsia parisienne cultivée et les ouvriers dits « simples ». Ce discours, hypocrite et classiste, a conduit une partie de la gauche à avaler des couleuvres, à renoncer à ses valeurs et à composer avec le racisme prétendument spécifique des classes populaires, plutôt que de tenir bon et de défendre les valeurs qu'elle prétend porter, alors même que celles-ci n'ont pas disparu des classes populaires. Et face aux tentatives de séduction des classes populaires par l'extrême droite, ils ont fait quoi les bobos là avec leur panier en osier? Rien! Ils ont rien fait puisqu'ils ont choisi la social-démocratie. Et cette stratégie a été fatale et à la gauche et à l'alliance avec les prolos. Ils ont préféré Pierre Berger et Olivier Besancenot. Ils ont préféré Jacques Attali au front de gauche. Et il semble bien loin le temps où les intellectuels progressistes étaient des marxistes en cheville avec la classe ouvrière. Ils ne parlaient pas la même langue, n'étaient pas du même monde, mais ils le savaient et essayaient de composer avec. Dans les années 60, la question de la classe ouvrière et de son avenir était un élément structurant chez les intellectuels français. Dans l'effervescence de mai 68, certains ont même jugé indispensable de se mettre à la place des ouvriers pour comprendre leurs conditions. Ceux que l'on appelait les établis ont quitté les bancs de l'université pour rejoindre le prolétariat dans les grandes usines comme Flins et Sochaux. Une démarche révolutionnaire d'alliance avec la classe ouvrière qui paraît aujourd'hui tristement anachronique.
D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, Robert Linhart est un militant qui a passé un an dans une usine Citroën à côté de Paris. Il raconte son expérience dans un bouquin justement intitulé « L'établi ».
Incroyable, waouh! Il parle d'un livre où le mec il est allé travailler. C'est comme de la science-fiction pour eux.
Un certain discours se répand à gauche, à travers des mecs comme Jean-Claude Michéa ou Christophe Guillouis. Il faudrait, pour reconnecter avec les classes populaires, abandonner certaines luttes, comme la lutte pour les droits des femmes, des homosexuels, des étrangers ou contre le racisme. Pourquoi? Parce que ce sont des luttes de bobos, hein, des luttes que la France périphérique, les blancs des campagnes en gros, ne pourraient même pas comprendre. Comme on vous le disait en début d'émission, si à la base le terme bobo désignait de vrais bourgeois, à terme il a fini par être utilisé pour désigner une partie de plus en plus importante de la population, les profs, les intellectuels, les artistes certes, mais également les urbains, les fonctionnaires, bref, tous ceux qui votent à gauche. Tous ceux et toutes celles dont la gauche a besoin pour gagner des élections. Sauf que sans apport de voix de la part des classes populaires, aucune victoire n'est possible. C'est en tout cas ce que semble avoir compris François Ruffin.
Il y a un divorce entre ce que Emmanuel Todd appelle les deux cœurs sociologiques de la gauche, c'est-à-dire les profs et les prolos, pour faire clair. Et donc il faut qu'on parvienne à une jonction des classes populaires et de cette classe intermédiaire, c'est la première chose.
La stratégie de Ruffin, c'est de faire en sorte que les bobos, par exemple ceux du petit monde du cinéma français, se préoccupent à nouveau du sort des classes laborieuses, quitte à les bousculer un peu.
Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement.
Et mine de rien, cette stratégie a fini par payer. 19% d'abrutis ont voté France Insoumise. C'est tout à fait considérable. C'est considérable parce que c'est le signe d'une chose, c'est qu'une partie de ces bobos, au sens large, dont nous parlons depuis le début, commence à douter du social-libéralisme. Donner encore quelques mois à Macron pour dégoûter les bobos qui ont préféré reconduire leur alliance avec la bourgeoisie libérale en votant pour lui, et il se pourrait bien que le grand jeu des alliances de classe soit à nouveau bouleversé. Espérons que ce soit pour le meilleur.
Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ainsi là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same. Je ne sais quel remords. Y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ainsi là j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Ainsi là je fais des ratures. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same.